Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
C'est le retour du carnet de région cette semaine, en charge de sa rédaction RCF Maglenero, comme tout au long de ce mois de mai. Encore aujourd'hui, de nombreux sujets proposés par différentes radios associatives de la région, et ceci pour rester au cœur de l'événement, au cœur de l'actualité locale, départementale et régionale. Cette semaine, nous parlerons des otages et du soutien avec la ville de Gignac et des otages du Sahel. Mercredi à Montpellier a eu lieu le premier mariage pour tous depuis la promulgation de cette loi. Maud de Bourquenay de RCF Maglenero était sur place et nous conviera à cette cérémonie d'une façon si particulière. Nous prendrons la direction ensuite de Mende avec le chemin urbain 5 qui avance à grands pas. Ensuite, nous plongerons en mer avec Laurent Balesta, fondateur d'Andromède Océanologie à Carnon, qui revient tout juste d'une expédition en Afrique. Il nous en dira plus. Direction ensuite à Lozère pour parler du road show qui sont organisés pour attirer les chefs d'entreprise. Puis pour conclure, direction le village de Selles autour du lac du Salagou qui organise tout au long de ce week-end les échos de l'habitat, un sujet qui nous sera proposé par Radio Lodève. C'est le carnet de région.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croustillon.
Dans l'Hérault, la commune de Gignac a donc décidé d'afficher son soutien aux otages du Sahel. La mairie a orné mardi dernier sur son balcon une banderole en présence du comité de soutien Languedoc-Roussillon des otages français retenus au Sahel depuis maintenant près de 1000 jours. Jean-Marcel Jauvert, il est maire PS de Gignac, il précise la volonté de la municipalité de déployer cette banderole.
Pour nous, essentiellement, c'est une volonté de solidarité avec les otages eux-mêmes et leurs familles, compte tenu donc d'un contexte assez particulier actuellement, avec l'expression d'extrémistes. Je crois qu'il est temps aussi qu'on se ressaisisse et qu'on puisse faire preuve de cohésion et qu'on puisse participer à la libération d'une façon très active.
Une banderole où l'on aperçoit notamment en photo le visage de ces quatre Français retenus au Sahel. Didier Béguin du comité de soutien des otages au micro d'Adrien Delgrange.
Vous parlez des visages, l'objectif c'est exactement ça, c'est faire en sorte que cette notion d'otage ne soit pas une notion abstraite, mais effectivement corresponde, que chacun prenne conscience que ça correspond à des hommes, à des visages. Les banderoles, c'est un peu un petit caillou dans la chaussure de chacun d'entre nous. Chaque fois qu'on voit cette banderole, on pense qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui sont détenus, des familles qui souffrent et des gens qui sont dans des situations intolérables. 1000 jours de vie volés, aujourd'hui presque 1000 jours, le mois prochain ça va faire 1000 jours, c'est quelque chose d'absolument innommable et intolérable. Donc chacun doit en avoir conscience.
Qui sont ces quatre otages ?
Alors les quatre otages sont Thierry Doll, originaire de Martinique, Marc Ferré, qui est plutôt originaire d'Aix-en-Provence, cette région de Provençale, ensuite Pierre Legrand, qui vient de Nantes, et Daniel Larib, donc, qui est d'Adalès. Mais je voudrais souligner, comme c'est indiqué sur cette banderole, que notre action porte essentiellement sur ces quatre personnes, mais on ne doit surtout pas oublier les autres otages, puisqu'il y en a à l'heure actuelle quatre, puisqu'il y en a un d'entre eux, on ne sait pas vraiment quelle est sa situation, s'il est décédé ou pas, mais soyons optimistes, disons quatre autres otages qui sont détenus avec nos quatre amis.
Alors même si c'est peut-être délicat d'y répondre, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez des otages retenus au Sahel ?
Écoutez, nous n'en avons pas plus que vous. Tout ce qu'on sait, on le sait à travers la presse ou à travers des informations officielles, mais toute information non officielle ou discrète nous est totalement étrangère. Là, je n'ai aucun autre élément que ce que vous connaissez à travers la presse. Autrement dit, on ne sait pas à l'heure actuelle où se trouvent nos amis, ni dans quelle situation. Tout ce que l'on sait, c'est ce que a dit le président il y a quelques temps, c'est qu'ils étaient vivants et que dans la souffrance, mais c'est tout ce que l'on sait.
Et gardons enfin une note d'espoir tout de même, la récente libération des deux otages en Afghanistan et de la famille au Cameroun. Qu'on soit pour ou contre le mariage pour tous, une chose est sûre, c'est que mercredi, c'était une bonne journée pour les commerçants à Montpellier. D'habitude, le parvis de la mairie reste vide et peu s'arrêtent pour y manger mercredi transformation à l'occasion du mariage pour tous. Cette place, ce parvis de la mairie était rempli de journalistes, 250 en tout, venus couvrir ce mariage pour tous. C'est venu de la région, de Paris, mais aussi de l'étranger. Anne-Laure Valère gérait le salon de thé Café Gourmandise sur le parvis et à midi, mercredi, elle en avait déjà vu passer des médias.
On a vu des journalistes depuis tôt ce matin, oui, depuis 7h environ, on a vu des journalistes sur la place, tout à fait. Mais on est ravis, hein, de toute façon, c'est un beau jour, c'est un jour de fête, donc oui, bien sûr.
Vous embêtez pas trop ?
Non, c'est des gens très gentils, très charmants, il n'y a pas de problème. On a eu France 2, oui, qui est venue, et puis on a eu France Info.
En face, Vincent Laporte gère la Compagnie des Glaces, il a vu passer une quinzaine d'équipes dans son commerce et a déjà été interviewé 3 fois.
Si ça nous donne plus de boulot, c'est plutôt une bonne chose, effectivement, parce qu'aujourd'hui, bon, en tant que commerçant, effectivement, on est très content d'avoir un événement aussi important devant notre commerce. Et bien entendu aussi, c'est un événement qui va développer la notoriété de la nouvelle mairie et de la place. Donc on espère avoir, grâce à cet événement, effectivement, après des retombées avec des visites touristiques. Là, on est en fait sur une zone toute nouvelle, puisque la nouvelle mairie de Montpellier a été inaugurée il y a 1 an et demi. Donc la place, aujourd'hui, est aussi en création. Et comme on est dans un quartier complètement nouveau et excentré à Montpellier, donc forcément aujourd'hui cette place n'est pas très connue du public et cet événement je pense sera le bon vecteur pour faire connaître la place.
Enfin, autre professionnel à profiter du mariage pour tous pour accroître sa renommée, c'est Philippe Chapon, le pâtissier qui a conçu la pièce montée. Il est venu présenter et offrir ses créations aux journalistes présents hier.
Et j'ai préparé avec cœur et en toute amitié, parce qu'avant tout, ça fait quelques années que nous côtoyons, étant à Montpellier depuis 11 ans, et avec la Gay Pride et tout, qui se passait en cœur de ville de Montpellier, donc nous étions toujours présents. Et aujourd'hui, pour ce premier mariage de France, je voulais faire un beau cadeau à mes amis, et donc en tant que double champion de France du dessert, pour ce moment unique dans la vie, je participe de tout cœur et j'ai préparé un gâteau qui est tout blanc, une belle pièce montée, avec entre autres, pour la symbolique, c'est un beau couple de deux époux au sommet de la pièce montée. Et aussi, j'ai mis 2 anges sur ce gâteau tout blanc parce que pour moi, bien sûr que l'amour n'a pas d'âge, mais aussi maintenant, on pourra dire que le mariage n'a plus de sexe parce que les petits anges n'ont pas de sexe. Donc voilà, je leur souhaite tout le bonheur du monde et pour ces deux jeunes futurs mariés et en même temps, heureux d'avoir participé à l'événement et j'espère que leurs invités seront ravis.
Ils avaient des exigences, les mariés, ou ils vous ont laissé carte blanche ?
Quelques exigences, ils ne voulaient pas de tulle, ils voulaient une pièce montée sobre, donc j'ai respecté la discrétion aussi que la pièce montée soit découverte au dernier moment. Donc là actuellement, j'ai fait aussi des gâteaux de mariage pour de futurs événementiels, aussi bien pour femmes que pour hommes.
Philippe Chapon travaille à Montpellier au restaurant Camarillo.
C'était un sujet préparé et présenté par Maud de Borquenet de RCF Maglonero.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le chemin urbain 5 avance à grands pas. Cyril Duclos, directeur de l'Office de tourisme de Mende, et Jean-Paul Peytavin, membre de l'Association des Amis d'Urbain 5, nous présentent cette avancée du projet.
Depuis qu'on a su que le chemin urbain 5 était homologué au niveau de la Fédération française de randonnée pédestre, on a pris nous aussi maintenant notre bâton de pèlerin. Et nous sommes en train de rencontrer les communautés de communes qui sont traversées par ce chemin pour leur expliquer le calendrier jusqu'au printemps 2014, date d'inauguration officielle de ce chemin de grande randonnée. Sans prétention aucune, hein, on veut pas se comparer au Saint-Jacques-de-Compostelle, mais évidemment, je dirais que c'est surtout la randonnée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut randonner, mais on souhaite pas randonner bêtement, on veut randonner un petit peu intelligemment, donc pourquoi pas aussi avoir de l'information le long du chemin. C'est aussi du ressourcement comme la randonnée, c'est aussi une connotation évidemment spirituelle qui est tout en marchant de s'imprégner un petit peu de ce que pouvait être la vie et l'œuvre de ce pape. On va avoir enfin la chance à Mende d'avoir un GR qui va traverser la ville. Donc on avait le Stevenson d'un côté, on avait le Saint-Guilhem de l'autre côté. Donc là, pour le coup, c'est effectivement le GR traverse la ville, passe évidemment devant la cathédrale et devant la statue du pape Urbain V et empruntera le chemin de croix que nous venons de refaire au niveau de la ville de Mende pour aller sur le cause-demande. Donc évidemment, les hébergeurs, les restaurateurs vont avoir des retombées économiques, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'un randonneur dépense en moyenne 52 euros par jour et par personne lorsqu'il se promène. Donc après, à nous d'avoir un plan de communication digne de ce nom, et que tout ça soit prêt pour le printemps 2014. Et à partir de là, avec un plan de communication, on espère avoir un petit peu de monde sur ce chemin. Ça fait quand même un an et demi qu'on travaille dessus. Et lorsqu'on a eu cette homologation au niveau de la Fédération française de randonnée pédestre, après un premier refus, il faut le savoir, ça a été quand même une petite victoire personnelle que j'ai partagée avec Jean-Paul Pétavin de l'Association des Amis du Pape Urbain V.
On a fait une bonne partie du chemin. Mais ce qui nous reste à faire, c'est tout ce qui concerne la rédaction du topo guide, le financement du topo guide. Mais là, c'est rédaction et financement, ça est plus du ressort des gens de la randonnée pédestre FFRP ou localement, c'est le représentant du CDRP 48. C'est eux qui vont se charger de ça. Et nous, association, on va se charger davantage du côté communication. On a un site internet dans lequel vous pouvez déjà aller voir le tracé du chemin. C'est pape-urbain-5, le 5 étant un V.org.
C'était un sujet de Julie Esmiraud de Radio Bartas. L'aventure d'une vie. Depuis des années, Laurent Balesta consacre sa vie et sa passion pour la mer et les poissons. Biologiste marin de formation, il a longtemps été le compagnon de route de Nicolas Hulot. En 2008, il décide alors de monter et de fonder sa propre société, une société de recherche Andromède Océanologie à Carnon. Son rêve était notamment d'approcher le poisson mythique, le coelacanthe. Il l'a approché en avril dernier, c'était en Afrique du Sud, une expédition filmée par la chaîne Arte qui sera diffusée avant la fin de cette année 2013. Naïma Serve pour Delta FM l'a rencontré.
Laurent Balesta, vous êtes parti donc en Afrique du Sud à la recherche du coelacanthe. Comment s'est passée cette expédition ?
Elle s'est bien passée dans la mesure où on a trouvé le coelacanthe tout de suite. Finalement, comme en 2010, c'est-à-dire que même si... c'est un animal connu pour être inaccessible, pour être rarissime, pour vivre à grande profondeur. Finalement, la difficulté, c'est pas de trouver le coelacanthe, mais simplement d'accéder à son univers. Et finalement, comme en 2010, cette année, en 2013, dès la première plongée, à la première seconde à laquelle on est arrivé au fond, le coelacanthe, et même cette fois-ci, les coelacanthes étaient au rendez-vous, quoi. Dès la première plongée, il y en avait quatre ensemble. Ce que j'avais jamais vu, moi d'ailleurs, en 2010, on avait toujours eu des individus isolés. Et là, on a eu quatre ensemble, le lendemain, quatre à nouveau, différents, puis trois. Après, le coelacanthe a commencé à jouer un peu la star et à nous poser des lapins régulièrement. Voilà. Mais au début, on a été vraiment récompensés. Enfin, ça fait un peu mystique de dire ça, mais moi, c'était difficile de voir autre chose qu'une récompense après tant d'énergie dépensée ces trois dernières années pour mettre en place tout ce projet, quoi. Donc, à la première plongée, arriver et voir quatre animaux, quatre coelacanthes devant nous, il y avait un soulagement et la sensation d'une récompense qui sont difficiles à décrire. En 2010, j'allais là-bas pour faire des photographies, pour faire des vidéos avec le... Et c'était le but ultime. C'était même ceux qui allaient financer cette expédition en 2010. J'avais aucun sponsor à cette époque-là. Et seule la qualité des images qu'on ramènerait ferait que l'expédition est rentable, ou au moins, voilà. Là, en 2013, c'était un vrai projet scientifique, beaucoup plus ambitieux, avec des sponsors, beaucoup d'enjeux scientifiques, pas que de l'image. Et quand je suis arrivé à cette première plongée devant ce groupe de coelacanthes, finalement, mon premier réflexe, peut-être parce que j'avais pas la pression de faire des photos autant que la dernière fois, peut-être aussi parce que j'étais pas prêt. J'étais tellement encore dans l'organisation, dans toutes ces choses-là, que j'ai pas eu le réflexe immédiat de tout de suite les photographier. Et je crois que c'est la première fois que je les contemple vraiment, quoi. Je me suis posé, je les ai regardés, peut-être pour la première fois, en fait.
Niveau scientifique, qu'est-ce que vous avez pu observer chez le coelacanthe que vous n'aviez pas observé avant ?
D'abord, des rassemblements, des petits groupes. Les prélèvements génétiques qu'on a fait sur eux à ce moment-là pourraient montrer s'il y a des liens de parenté à l'intérieur de ces petits groupes. Est-ce que quand on trouve quatre coelacanthes ensemble, sont-ils frères et sœurs ? parents et enfants, ou au contraire sont-ils complètement différents et ce sont plutôt des moments où, qui vont s'achever peut-être par de la reproduction. Voilà. Donc ça va être très intéressant, mais ça demande pas mal de traitements, ces prélèvements génétiques, donc on n'a pas les résultats encore. Ensuite, grâce à cette fameuse caméra girafe, cette caméra stéréoscopique, cette double caméra avec laquelle on a filmé en même temps, sous plusieurs axes, un même sélacanthe en mouvement, les chercheurs, dans quelques mois, vont pouvoir faire un modèle en trois dimensions de l'animal et de ses déplacements, et donc pouvoir étudier les mouvements extrêmement précis de ces nageoires qui sont pas n'importe quelle nageoire, hein, qui ont été l'amorce des pattes des animaux terrestres il y a 370 millions d'années, donc c'est très pertinent de les étudier. Voilà. Et puis après, y a eu plein de manips différentes, et puis l'ultime manip scientifique qu'on a fait, c'est le dernier jour quand j'ai posé une balise GPS sur le dos de l'un d'entre eux. Et cette balise va enregistrer les déplacements des animaux, le déplacement de cet animal pendant 9 mois. La chose un peu stressante, c'est qu'on aura les résultats de ces déplacements que dans 9 mois. Pour l'instant, la balise qu'il a sur le dos enregistre tous ces déplacements, enregistre la température de l'eau, la salinité, la lumière, etc. Et dans 9 mois, sa balise va toute seule, sur un signal électrique, se décrocher. Exactement le 13 février 2014 à minuit, la balise va se décrocher et, en principe, remonter à la surface. Et une fois qu'elle sera à la surface, alors toutes les données enregistrées les 9 derniers mois seront envoyées par satellite jusqu'aux chercheurs au muséum à Paris. Et à ce moment-là, on pourra voir quels ont été ces déplacements. Est-ce que pendant 9 mois, le sélacanthe est resté dans une toute petite zone, ou est-ce qu'au contraire, il a fait de grandes migrations, il est allé jusqu'à Madagascar ou je ne sais où. Voilà, et ça c'est extrêmement passionnant. Évidemment, je suis assez impatient d'avoir ce résultat. C'est stressant parce qu'il suffirait que ce jour-là, à minuit, pour une raison quelconque, il ait décidé de rester à l'intérieur d'une grotte, et la balise va se détacher et se coller au plafond de la grotte. Et ce sera des données perdues à tout jamais, quoi. Mais voilà, ça fait partie du jeu. L'aventure, c'est pas que de plonger profond, quoi.
Il y aura d'autres expéditions à la recherche du sélacanthe ?
Non, je crois que j'y ai quand même consacré une grosse partie de ma vie. J'y ai beaucoup sacrifié. Avec ce sélacanthe, il y a eu une histoire d'amour. Et puis les histoires d'amour, ça s'arrête, normalement. Voilà.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héro,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
En début de semaine, Lozère Développement et le syndicat mixte lozérien de l'A75 ont organisé un roadshow de l'A75 de jour pour notamment faire découvrir à des chefs d'entreprise les opportunités économiques d'un espace rural en pleine croissance. Ce projet est dans la continuité de journées portes ouvertes mises en place mi-mai. Il s'agissait alors de montrer ou de faire mieux connaître aux chefs d'entreprise locaux et régionaux les zones d'activité se situant le long de l'autoroute A75. Ce lundi et ce mardi, le roadshow était davantage tourné vers les chefs d'entreprise extérieurs au département. Sur un programme serré, les organisateurs ont parcouru le département le long de l'autoroute en s'arrêtant sur des zones en plein essor pouvant les accueillir. Alors justement, combien d'entrepreneurs ont répondu présents ? La question et la réponse d'Emmanuel Baudin, directrice du syndicat mixte lozérien de l'A75.
Nous avons presque une trentaine de chefs d'entreprise, oui, je crois 26 chefs d'entreprise présents sur ces deux jours en Lozère, qui viennent de Paris, du sud de la France, il y en a du Tarn, il y en a effectivement de toute la région française, du 77. C'est très intéressant de voir effectivement comment ils ont connu cette opération aussi. Certains par des réseaux d'entreprises, je pense notamment à la CGPME 77. Je pense aussi d'autres parce qu'ils ont un lien naturel avec la Lozère. Certains sont nés en Lozère et sont partis travailler, notamment je pense à certains qui sont du Luxembourg et qui sont nés à Mende. D'autres ont des parents lozériens et puis l'envie leur est toujours dans le cœur de revenir en Lozère, de pourquoi pas ouvrir une entreprise en Lozère. Au terme de ces actions de promotion, on va essayer de tirer un bilan en termes de notoriété de nos hommes, déjà, effectivement. Et l'idée, c'était quand même de les faire connaître, de les faire mieux connaître pour tant les Lozériens que les acteurs économiques extérieurs au département. Et puis, dans un second temps, effectivement, si ça nous permet de concrétiser des projets, de développer l'emploi dans le département, effectivement, là, c'est vraiment le cœur de notre métier.
Et parmi ces chefs d'entreprise, certains ont déjà des projets vraiment concrets. Écoutons Sébastien Oziol, il est directeur de Lozère Développement.
Le roadshow va nous permettre d'identifier les projets matures et ceux qui le sont moins. Les projets matures vont directement passer en phase d'accompagnement, les mises en relation vont se faire et certains sont même suffisamment matures pour être mis en œuvre sans qu'il ait besoin d'un accompagnement très long. Pour d'autres, évidemment, c'est un premier contact. Et puis le contact va être maintenu, on se rencontrera encore régulièrement jusqu'au jour où l'opportunité d'appuyer sur le bouton marche sera là, c'est-à-dire le jour où l'opportunité de créer l'entreprise ou de créer le partenariat se présentera. C'est-à-dire que des personnes viennent ici sans projet véritablement formalisé, mais avec une intention, une envie de faire avancer leur entreprise en Lozère. Il y a des pistes dans le domaine de la filière bois, dans le domaine agroalimentaire. On a énormément de personnes. On est étonné par la curiosité extérieure sur les entreprises de l'agroalimentaire lozérien. C'est parce que c'est des secteurs traditionnels du département et ici il y a une certaine excellence dans ces domaines-là, donc on a envie de venir voir comment les choses sont faites quand elles sont bien faites. Il y a des projets très intéressants qui s'annoncent.
Des propos recueillis par Ludovic Terol de 48 FM.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Et pour conclure ce magazine, direction le petit village de Selles dans l'Hérault, bord du lac du Salagou, se déroule ce week-end, ce samedi et ce dimanche, toute la journée, les échos de l'habitat. Deux jours complets de rencontres autour de l'habitat et des techniques de construction respectueuses de l'humain et de l'environnement, ce que nous explique le gérant d'Ecolodev, Marc Padilla.
C'est pas une foire, comme on peut l'entendre. C'est différent de ce qu'il pouvait y avoir il y a 2 ans, où il y avait des stands commerciaux et des ateliers pratiques. Là, on a enlevé les stands commerciaux, il n'y en aura pas. Les gens qui sont présents sont là dans une notion de partage de leur savoir-faire ou d'une technique qu'ils ont envie de mettre en avant. Et il y a énormément d'ateliers pratiques, donc il y en a une trentaine à peu près. Construction oui. d'une calade en pierre, d'enduit fouetté, comme on faisait avant, des briques de terre crue et un dôme réalisé. Construction paille ou petite éolienne, construction de pales d'éolienne. Disons que c'est très très large. Après, il y a une dimension palabre. Voilà, on va faire venir quelques bottes de paille, en faire des cercles et disposer de plusieurs endroits dans le village de Selles pour que sur des thématiques en particulier, que ce soit la phytoépuration, que ce soit les énergies ou d'autres choses, on puisse se rencontrer et discuter. Et là, ce qui est important, c'est aussi bien l'expertise de l'artisan ou de la personne qui l'a que la question qui va être posée, qui va permettre d'aller un peu plus loin dans la réflexion, ou l'expérience très pratique de quelqu'un qui va pouvoir la partager. Et il y a également des conférences, à la fois dans l'église et dans la salle de la mairie, où là, pendant toute la journée, il y aura des conférences sur les champs électromagnétiques et leur incidence, sur notamment la phytoépuration. Erwan Dufumier du SPANC sera là, Frédéric va faire
service public d'assainissement non collectif, oui.
Pour parler des problématiques. On a construit des toilettes sèches. Donc c'est à la fois du très concret et en même temps une somme d'informations. Il y a également le GFOSAT qui sera présent par rapport aux aides que l'on peut avoir quand on est dans une problématique de construction ou de rénovation. Énergie, financement, aide, accompagnement.
Loin des foires commerciales traditionnelles, ce rendez-vous est totalement ouvert et gratuit et se veut avant tout un moment de rencontre et d'échange.
Oui, les foires, en fait, pour en avoir fait quelques-unes et je me sens pas vraiment à l'aise justement avec cette dimension commerciale, aussi bien alors par rapport à des foires type Energaïa qui sont des foires très importantes réservées à certains types de publics qui ont des moyens et finalement au bout du compte, quand on cherche une information, on trouve pas grand-chose. Et pour moi, des dépenses d'argent aussi très importantes. Alors que là, l'idée, c'est qu'avec nos moyens et notre envie de participer à quelque chose, on est capable de faire quelque chose de très différent. Les artisans qui sont présents sont des gens qui ont leurs compétences, qui vendent leur savoir-faire, qui ont leur propre chantier. Mais à cette occasion, c'est plus partager leurs connaissances que de dire « je vais absolument vendre quelque chose ». Et la plupart des gens avec qui on travaille sont des gens capables d'accompagner les clients éventuellement sur le chantier. Ou dans le chantier, de dire « cette partie-là, vous ne souhaitez pas la faire, je la prends en charge. Par contre, sur cette partie-là, faites-le vous-même, ça vous coûtera moins cher et nous, on arrive en accompagnement derrière ». Voilà, c'est une autre forme de relation d'échange, de relation de travail également, parce que le but du jeu, c'est aussi que sur le territoire, il y ait de plus en plus de choses qui se fassent et d'une autre manière. Des techniques vont être mises en œuvre, ça peut être de la paille, de la terre, et c'est pas forcément des choses que l'on vend, mais elles ont du sens quand elles sont mises en œuvre d'une certaine manière.
Un sujet réalisé par Alain Mendes de Radio Lodef. Et c'est sur ce générique que se conclut pour cette semaine ce tout nouveau numéro pour le carnet de région. Vous remercions donc à vous tous et toutes d'avoir suivi ce magazine d'actualité en région. Merci de votre fidélité et puis merci également aux radios qui ont participé à l'élaboration de ce carnet de région cette semaine. Prochain retour de celui-ci, c'est la semaine prochaine, à la même heure et au même endroit. Et le rendez-vous qui vous sera proposé est présenté par Yves Defago de Radio Grille Ouverte. Je vous souhaite d'ici là un très bon et excellent week-end et on va se quitter avec le dicton du jour. La météo, c'est comme la théorie et la pratique. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Et la pratique, c'est quand tout fonctionne et personne ne sait pourquoi. C'était le Carnet de Région.